Je me suis efforcé la semaine dernière de donner une vue d'ensemble de la genèse de notre univers historique depuis le XVIIIe siècle, dimension la plus opaque, la plus confusionnante de la structuration autonome, cela en raison, il n'y a pas là-dessus de mystère, de la place qui tient l'économie, devenue l'écran principal qui empêche de comprendre en profondeur le fonctionnement de nos sociétés. Sortir de l'économicisme ambiant suppose de réinscrire l'économie à l'intérieur de la structuration autonome dont elle n'est qu'un rouage. C'est la condition théorique pour trouver les moyens politiques de la domestique. L'impératif est de se délivrer de cette idée obsédante suggérée par les apparences du fonctionnement de nos sociétés selon laquelle l'économie en constitue le moteur. Il y a une demi-vérité, bien sûr, dans cette idée, sauf que cette demi-vérité masque la vérité complète, qui est que c'est l'organisation autonome en son entier qui a propulsé l'économie dans cette position privilégiée, si ce n'est aujourd'hui exclusive, on va y revenir précisément, avec pour conséquence de nous plonger dans cette contradiction permanente qui nous voit protester contre ses effets tout en lui demandant tout. Il s'agit de démêler le mécanisme qui a installé l'économie dans ce rôle et de la réintégrer dans le dispositif d'ensemble de l'orientation historique dont elle représente la plus forte expression, assurément, du point de vue des apparences, mais l'une seulement des expressions. Le matérialisme économiciste constitue l'illusion par excellence de la société de l'histoire à son propre sujet. Elle en est partie intégrante. En sortir demande de remettre en question cette fausse dichotomie du matériel et de l'idéal. Dans l'élément social historique, les deux sont indissolublement liés. C'est le défi qu'il lance à nos manières ordinaires de penser. L'orientation vers l'avenir, considérée comme progrès possible, est un fait intellectuel, mais elle est simultanément et inséparablement une disposition pratique qui commande l'action. Disposition pratique dont les retombées sous forme de changements effectifs produisent des effets intellectuels, lesquels sont instantanément retraduits concrètement dans de nouvelles ouvertures pour la pratique collective. Il faut à chaque pas faire le lien entre les deux, à égalité, sans chercher à faire de l'un la cause de l'autre. L'élément historique, si nous l'appréhendons convenablement, nous sort de l'alternative ruineuse de l'idéalisme et du matérialisme. Les deux ont une vérité partielle et sont ultimement faux ensemble. Nous avons vu donc comment l'orientation historique s'est mise en place à partir de la mi-18e siècle au travers de la perspective du progrès. Nous avons vu comment elle a produit le concept même d'histoire au singulier, puis la conscience historique en laquelle on ne peut séparer, là, encore une fois, la perspective ouverte à l'action et les données de la réflexion. Nous avons vu comment elle a engendré sur cette base les philosophies de l'histoire d'un côté, les sciences historiques de l'autre. Nous avons vu surtout comment l'orientation historique s'est concrétisée structurellement dans la réorganisation du fonctionnement collectif au travers du renversement libéral et de l'avènement du fait libéral. Fait libéral, entendons, la séparation de la société civile et de l'État, l'inversion de la relation entre État et société qui donne naissance au gouvernement représentatif et avec lui à la politique comme domaine d'activité distinct du politique. Le tout inséparable de la formation à l'intérieur de la société civile de l'économie en un système autour de la révolution industrielle. Révolution industrielle qui est elle-même l'une des expressions majeures de l'orientation historique dans sa double dimension intellectuelle et matérielle. La révolution industrielle est une révolution culturelle, comme les historiens commencent à le reconnaître de mieux en mieux, une révolution culturelle inintelligible hors de l'application des connaissances scientifiques et techniques aux activités de production et d'échange. Une révolution qui n'eût pu se déployer hors d'une société ouverte en son principe au changement pour le plus et pour le mieux. Le contre-exemple chinois est là pour le faire ressortir, et hors d'une société politiquement libéralisée. C'est ce qu'il y a de vrai dans l'idée de révolution bourgeoise, à ceci près qu'elle prend une corrélation pour une cause. Corrélation indiscutable, causalité fausse. La politique libérale et le capitalisme industriel vont de pair, c'est hors de doute. Cela signifie nullement que le capitalisme industriel et la montée de la classe bourgeoise qui vont avec sont la cause de la révolution bourgeoise qui a donné naissance à la société libérale. Nous pouvons tenir l'orientation historique pour pleinement installée à la mi-19e siècle. Les révolutions de 1848 en Europe marquent le moment où elle triomphe. La structure libérale de la société de l'histoire l'a irrévocablement emportée avec le principe du gouvernement représentatif porté à l'échelle européenne par le mouvement des nationalités. Le mouvement des nationalités qui est à deux faces, je le souligne au passage. Aspiration à l'indépendance des nations contre leur assujettissement à un pouvoir extérieur, mais aussi aspiration à l'intérieur à une correspondance représentative entre la nation et son pouvoir. À la même date, le passage à l'âge industriel est acquis. L'exposition fameuse des progrès de l'industrie à Londres en 1851 en est la célébration. C'est dans le sillage de ce tournant que marquent les révolutions de 1848 que va pouvoir s'épanouir la phase glorieuse du libéralisme classique. qui se résume dans la triade des notions avec majuscule de peuple, avec un grand P pour ce qui est de la politique, de progrès avec un grand P pour ce qui est de l'histoire, et de science pour ce qui est de l'esprit. Mais de ce que l'orientation historique est pleinement installée, il ne suit aucunement qu'elle est pleinement développée dans toute l'étendue de ses conséquences. Bien au contraire, elle n'est encore qu'à l'état embryonnaire. Elle va continuer à se déployer à partir de cette base solide, en se dégageant petit à petit du moule hétéronome dans lequel elle reste prise et qui en limite les expressions. En cela, son parcours obéit exactement au même modèle que celui que nous avons pu suivre antérieurement à propos du politique et à propos du droit. Même à ce stade d'installation en bonne et due forme, nous avons affaire à un mixte de structuration hétéronome et de structuration autonome, à un compromis entre l'unité des temps, selon la tradition, ce qui a été à l'origine est et sera, et la différence des temps qu'implique l'orientation productive vers l'avenir. Ce qui est diffère de ce qui a été, et ce qui sera ne pourra que différer de ce qui est. Ce compromis a son expression exemplaire dans l'idée de progrès, entendu dans sa profondeur. Différence des temps, certes, mais balancée par la continuité d'un développement. Ce qui est constitue le développement des germes qui étaient contenus dans le passé, germes auxquels le futur apportera un épanouissement plus complet. Ce compromis, qui vaut tant sur le plan pratique que sur le plan intellectuel, est ce que l'orientation historique, en s'approfondissant, va défaire peu à peu jusqu'à la briser. Ma thèse est ce qui s'est produit justement à la faveur de notre ultime tournant théologico-politique des années 1970, et consiste dans cette rupture. L'orientation historique s'est définitivement dégagée des liens structurels qui la retenaient dans l'orbite de l'identité des temps. Pour la première fois, nous avons affaire à l'orientation historique en tant que telle, et il s'ensuit des conséquences inattendu. La première, et pas la moins étonnante, est que ce que nous mettions sous le nom d'histoire a, semble-t-il, disparu. En réalité, nous le verrons, elle est plus que jamais là, comme est plus que jamais là la société qui semble s'être effacée, elle aussi, du même mouvement. Mais il faut bien entendu rendre compte de ces apparences. Elles sont fonction de la radicalisation de l'orientation historique, comme nous allons essayer de l'établir. Il s'agit donc de suivre cette expansion de l'élément social historique depuis ce moment d'installation à la mi-19e siècle jusqu'à ce point d'arrivée dans les dernières décennies du 20e siècle. Cette expansion, nous l'avons vu la dernière fois, se nourrit d'elle-même. L'orientation productive vers l'avenir a pour propriété constitutive et très remarquable de s'auto-alimenter. Chacun de ces pas en avant lui apporte de nouveaux moyens et lui ouvre de nouveaux possibles. Il est de sa nature d'élargir son champ d'application et d'approfondir ses modalités d'action. C'est cette dynamique interne qui accrédite l'idée obsédante depuis le XIXe siècle d'une accélération de l'histoire. Cette idée d'accélération de l'histoire, notons-le au passage, est intéressante pour la confusion qu'elle permet de mettre en lumière. Confusion qui nous sera utile pour comprendre dans l'autre sens l'impression actuelle de disparition de l'histoire. Cette idée repose sur la mise en continuité de ce qui se passe aujourd'hui avec l'ensemble du passé humain. Ce qui, extérieurement, n'est pas faux, bien entendu, que ce qui se joue dans la modernité européenne depuis 1750 est à loger dans le prolongement objectif du déroulement antérieur du parcours humain. Mais cette vision extérieure escamote la discontinuité interne induite par l'émergence de l'orientation historique, avec son mécanisme d'auto-amplification. L'accélération prétendue, qui est en vérité une démultiplication par le dedans, ne vaut que pour cette séquence spécifique et ne nous dit rien du passé dans son ensemble, et moins encore de l'histoire en général. L'idée d'accélération de l'histoire part d'une observation juste pour en faire une extrapolation indue, en prétendant en tirer une propriété de l'élément historique lui-même. Si nous voulons écrire valablement l'histoire qui s'est déroulée depuis qu'il y a l'orientation historique, et l'idée même d'histoire, nous devons combiner les deux points de vue. Le point de vue externe qui traite les deux derniers siècles comme n'importe quelle autre période antérieure, et le point de vue interne qui rapporte les mêmes faits et les mêmes données à la source constituée par la dynamique de l'orientation historique. Et il ne serait pas très difficile de montrer comment, chez les historiens de l'époque contemporaine, le flou de l'articulation entre ces deux points de vue est la raison de l'embarras de l'écriture de cette histoire contemporaine qui l'a fait si longtemps tenir pour une zone ténébreuse de la science historique. Préjugé qui est loin d'être encore complètement dissipé. Vous remarquerez que les philosophies de l'histoire reprennent à leur compte le même postulat de continuité entre l'histoire que l'on pourrait dire proprement moderne, l'histoire sous le signe de l'orientation historique, et l'ensemble de l'histoire antérieure. Elles le reprennent en poussant le bouchon un cran plus loin, puisqu'elles érigent cette dernière phase où l'histoire en vient à se faire en connaissance de cause et à la lumière de son concept, en moment de vérité du processus historique dans sa totalité, alors qu'il n'est qu'un moment parfaitement singulier au regard de tout ce qui a précédé. Nous avons, à partir de là, les moyens de mesurer ce qui s'est joué au cours des dernières décennies comme disqualification des philosophies de l'histoire et disparition apparente de l'histoire. La radicalisation de l'orientation historique a ruiné le postulat de continuité sur lequel elle reposait. Elle l'a rendu intenable. Je vais prendre les choses sous l'angle politique qui me permet d'introduire une dimension laissée de côté jusque-là, la dimension idéologique. Dimension essentielle de l'univers historique. La dimension concernant justement l'idée que s'en font ces acteurs, l'explication qu'ils s'en donnent et les conséquences qu'ils en tirent sur le plan politique. La mise en place de la société de l'histoire et de ses corrélats, l'avènement du gouvernement représentatif et du domaine de la politique sont inséparables de la formation d'un type de discours pour lequel je ne vois pas de meilleur mot que celui d'idéologie, en dépit des abus et des confusions auxquels il a donné lieu et continue de donner lieu. Mais, comme les autres, après tout, je crois que dans l'écologie de l'esprit de notre époque, il n'y a pas un seul terme qui soit à l'abri de la pollution. Il s'agit simplement, face à cette dégradation du langage, d'être encore plus rigoureux dans la définition des termes qu'on emploie, celui d'idéologie en l'occurrence, et dans son maniement. Il faut compléter à cet égard la définition que je donnais de la politique, le domaine d'activité lié au travail de la représentation via la compétition électorale et le contrôle des gouvernements élus. Il faut ajouter à cette définition la politique et le domaine de la confrontation des idéologies au nom desquelles se justifient les programmes électoraux, les projets des partis et l'action des gouvernants. L'idéologie est l'élément intellectuel de la politique. La société de l'histoire implique de nécessité cette dimension intellectuelle capitale qui est la liberté de ses acteurs de se donner une lecture de ce devenir auquel tous sont appelés à contribuer, qu'ils le veuillent ou non. D'où vient-il? Où en est-il? Quels sont les enjeux? Quels sont les problèmes que soulève le devenir immédiatement et à horizon plus éloigné? Qu'est-il permis d'en attendre? Que convient-il de faire politiquement en fonction de ce diagnostic sur l'état des choses en devenir? Je n'entre pas dans la genèse de ce discours qui va répondre à l'ensemble de ces questions, une lecture du devenir mise en forme de projet et de programme politique, je me borne ici à relever les quelques traits utiles directement à notre propos. Ces lectures du devenir ne peuvent être que plurielles et divergentes. La société de l'histoire est par essence intellectuellement et idéologiquement pluraliste. Nous avons là le moyen de casser une fois pour toutes avec l'une des plus graves confusions qui grèvent cette notion d'idéologie, l'assimilation de l'idéologie à la formule automatique idéologie dominante. Pas complètement absurde si l'on la pousse dans sa rigueur, parce qu'elle veut bien dire qu'il y a des idéologies dominées. Le fait est, il y a plusieurs idéologies à tout moment de la société de l'histoire. Et en effet, il y a des rapports de force entre idéologies selon les périodes historiques qui permettent d'assigner à tel ou tel moment une position dominante à telle ou telle ligne de discours, ce qui ne signifie nullement dominante exclusive. Pour autant, cette pluralité n'empêche pas que ces lectures intrinsèquement divergentes du devenir sont innombrables et aléatoires. Dans les faits, elles s'organisent autour de trois grands pôles, d'une remarquable stabilité depuis plus de deux siècles. Conservatisme, libéralisme, socialisme. Des pôles de compréhension du devenir que l'on peut regarder là aussi comme bien dégagés et identifiés autour de la mi-19e siècle. 1848, c'est d'une certaine manière le moment de la scène de la confrontation des idéologies qui s'organise en grand en Europe. Je me borne à relever deux traits relativement au contenu de ces idéologies. Chacune de ces familles idéologiques s'organise en privilégiant l'un des temps de l'histoire. Le conservatisme privilégie le lien à maintenir avec le passé comme garantie de l'ordre social. Le libéralisme valorise le présent et les libertés individuelles qui s'y sont conquises. Le socialisme place ses espoirs d'émancipation et de justice dans l'avenir. Ensuite, chacune de ces idéologies est une prise de position fondamentalement par rapport à la structure libérale de la société de l'histoire. L'indépendance de la société civile par rapport à l'État et l'indépendance des individus à l'intérieur de la société civile. Le conservatisme réprouve cette structure libérale en tant que facteur de désordre et d'anarchie. Il entend à tout le moins la contenir programmatiquement, dans le cas du conservatisme modéré, voire revenir dessus dans le cas du conservatisme radical, au moyen du rétablissement de l'autorité, de la hiérarchie et du primat affirmé du politique. Le libéralisme se constitue à l'opposé en défenseur de la structure libérale du droit, de la structure libérale de la société de l'histoire, en revendiquant sa garantie de droit. Il prône l'extension du fait libéral comme source du dynamisme collectif et de l'accroissement des richesses, où l'on voit comment il faut distinguer le fait libéral structurel de l'idéologie libérale qui en représente une lecture particulière et une valorisation spécifique. Enfin, le socialisme combat lui aussi le fait libéral, mais pour de tout autre raison que le conservatisme. Il y voit la source de l'injustice sociale, liée à la logique de la propriété privée. D'où le projet d'abolir cette séparation de la société civile et l'État grâce à la propriété collective, en rendant la société maîtresse des moyens de production, on abolirait aussi bien la nécessité d'un gouvernement distinct de la société. Le dépassement de la division de la société en classes, les propriétaires versus les non-propriétaires, serait du même coup le dépassement de la division entre pouvoir et société. Une société dans laquelle la coopération entre acteurs se substituerait à leur concurrence inhérente à la structure libérale. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut avoir pris la mesure de cette donnée idéologique. Le débat de la société, de l'histoire avec elle-même, au travers de la confrontation des idéologies, a été essentiellement, centralement, depuis les débuts même de son déploiement, un débat autour de sa structure libérale, autour des racines et des raisons de cette structure, autour de la nécessité et de la possibilité de la dépasser. Je me contente pour le moment de poser cette observation en guise de perte d'attente. Nous verrons quelle est l'une des clés du bouleversement de la scène politique contemporaine. L'histoire interne de l'orientation historique et de son déploiement est à écrire à partir de son foyer agissant, qui est le présent. De son émergence jusqu'à sa consécration dans le tournant des années 1970, cette histoire a tourné autour du jeu entre deux facteurs en tension. D'une part, donc, la prégnance de la structuration hétéronome sous l'aspect de l'unité des temps, et d'autre part, l'accroissement de la puissance du présent, de sa puissance d'histoire, de sa force d'invention et de changement, de sa capacité de production du devenir. L'accroissement de la puissance du présent a peu à peu desserré l'étreinte de l'unité structurante des temps. En creusant l'écart entre le présent et le passé, d'un côté, entre le présent et l'avenir de l'autre, jusqu'à finalement dissoudre cette unité en engendrant notre présentisme problématique d'aujourd'hui, dont la perspective permet de saisir la véritable signification. Cette histoire, on le discerne d'emblée, va être, pour de bon, une histoire totale. Elle engage tout à la fois l'histoire des moyens de changement et l'histoire de l'organisation pour le changement, l'organisation la mieux à même de le favoriser. Elle est simultanément l'histoire de l'action historique collective et l'histoire de la réflexion historique dans ses différentes déclinaisons. Elle est histoire de la conscience historique, dont l'élargissement, la pénétration, l'approfondissement depuis le début du XIXe siècle est le pan décisif de notre histoire culturelle depuis deux siècles. Elle absorbe corrélativement l'histoire des sciences historiques, l'histoire des philosophies de l'histoire et de leur audience, de leurs fortunes diverses, mais aussi l'histoire des idéologies politiques et de leur rapport de force selon les différentes périodes. Elle est aussi l'histoire de l'idée de société en lien avec l'évolution des modalités concrètes de déploiement du social. Elle est l'histoire de l'indépendance effective de la société civile et de la consistance de ses composantes. Qu'il s'agisse du statut des acteurs individuels ou des formes successives de l'économie capitaliste ou bien encore des formes de la coopération et de l'association entre acteurs. Elle est encore l'histoire politique du gouvernement représentatif qui se transforme avec l'évolution du rapport entre pouvoir et société et l'exigence de correspondance entre eux, dont les modalités sur deux siècles ont considérablement évolué. Ce qui unifie l'ensemble de ces paramètres, c'est leur commun concours à la dynamique collective. Ils participent d'une seule et même tâche, l'autoconstitution du monde humain dans le temps, tel qu'il comprend, tel que ses acteurs comprennent cette autoconstitution au fur et à mesure de son avancée. Il est évidemment hors de question dans cette vue d'ensemble, d'embrasser la totalité de ces données, je voudrais juste apporter quelques éclairages de nature à rendre sensible l'avancée de ce processus, l'important pour nous étant son point d'aboutissement et la situation pour le moins étrange où nous laisse cette consécration de l'orientation historique. Quelques mots d'abord sur ces moyens d'action, d'invention, de changement qui font la puissance d'histoire du présent. Les premiers auxquels on pense sont naturellement les moyens techniques, les machines, les procédés qui leur sont associés et les systèmes qu'ils composent. Mais qui dit machinisme et système technique dit énergie pour les faire fonctionner. La puissance du présent est faite pour une de ces dimensions, on ne peut plus pratique, de la quantité d'énergie dont nous disposons, avec l'exploitation des esclaves mécaniques qu'elle autorise. L'approfondissement de l'orientation historique se mesure à la quantité d'énergie disponible. Et de ce fait, on peut aisément, même si la courbe reste approximative, en reconstituer le tableau chiffré. L'approfondissement de l'orientation historique se mesure également à la quantité de capital disponible en vue de l'investissement vers le futur. Et là aussi, cela se chiffrerait assez facilement, même si approximativement. Après, toutes les discussions sur la possession du dit capital, sur les modalités de sa rémunération, sur les droits qu'il ouvre, sont légitimes et nécessaires. Mais il faut bien voir que la projection de l'action collective vers l'avenir fait nécessairement du capital un rouage déterminant de l'organisation collective. En tant que moyen pratique de mobiliser des ressources au service de l'anticipation du futur. En ce sens, la société de l'histoire est nécessairement capitaliste d'une manière ou d'une autre. Que le capitalisme soit d'État ou qu'il soit privé, c'est secondaire au regard de la dimension capitaliste de l'action collective. Ça ne change strictement rien à la chose. Mais à côté du capital, il y a le travail. La société de l'histoire est proprement la société qui invente la notion de travail et qui la dignifie. Le travail est ce mode d'activité privilégié par lequel chacun participe à sa façon, à son niveau, dans son ordre, de l'invention collective. La puissance du présent est faite de la quantité de travail disponible. Quantité qui ne se mesure pas simplement au nombre de travailleurs, mais à ce que les économistes appellent la productivité du travail, inséparable d'une réflexion sur l'organisation où elle prend place et sur les conditions de son efficacité. Par où on passe à cette autre composante cruciale de la puissance de changement qu'est la connaissance. Elle ne regarde pas que le perfectionnement des objets et des procédés techniques par la recherche-développement, hein, ce qu'on met ordinairement sous la notion de société de la connaissance aujourd'hui. La connaissance concerne bien plus largement la capacité des acteurs à en faire usage dans l'ensemble des registres de leur activité. La puissance du présent passe par le niveau de formation et d'information des acteurs. On parle d'ailleurs volontiers à ce propos de capital humain, notion discutable pour toutes sortes de raisons, mais révélatrice. Ce qui est sûr, c'est que la société de l'histoire est une société éducative. L'orientation historique exige une mobilisation éclairée des acteurs sociaux. Au travers de ces notations rapides, je voulais juste donner l'idée de l'accumulation multiforme de puissance de devenir par lequel est passée l'expansion de l'orientation historique. Revenons maintenant à cette tension entre orientation productive vers l'avenir et unité hétéronome des temps qui a constitué le cœur de l'expérience historique devenue consciente au cours des deux derniers siècles. Qui dit orientation historique dit production délibérée de nouveau dans le présent, et donc prise de distance par rapport au passé, et anticipation, corrélativement, d'un écart de l'avenir. Par conséquent, remise en question de l'identité des temps propres au règne de la tradition. Mais qu'à cela ne tienne, je l'indiquais tout à l'heure, en remplaçant cette identité du passé, du présent et de l'avenir par leur continuité, on sauve l'essentiel. Ce pourquoi la notion de développement, empruntée aux sciences naturelles, à l'embryologie très précisément, va jouer un tel rôle dans la conceptualisation de l'orientation historique et de son expérience. Le présent diffère du passé, comme l'avenir différera du présent, mais ils sont liés par la continuité d'un même développement, qui fait qu'ils restent ultimement identiques. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre le rôle de l'idée de fin de l'histoire. Elle pointe justement ce moment de totalisation terminale où se résorbent toutes les différences et où se révèle l'identité dernière des moments distincts d'un processus unique. À la fin de l'histoire, on comprend que c'est la même chose en profondeur qui se jouait à chacun de ces moments différents, tant du moment antérieur que du moment ultérieur. Mais encore une fois, dans le domaine de l'expérience historique, ainsi structurée par l'orientation délibérée vers la production de l'avenir, la réflexion ne se sépare jamais des modalités de l'action. On a l'équivalent de cette contrainte de continuité qui s'exerce dans le domaine de la pensée sur le plan pratique. C'est qu'au départ, tout simplement, la quantité de changements susceptibles d'être produits est limitée par rapport au stock de l'acquis. Nos moyens actuels nous permettent juste d'ajouter une petite couche supplémentaire à l'accumulation sédimentaire de l'œuvre des siècles qui nous ont précédés. C'est ce que traduira la formule frappante d'Auguste Comte : l'humanité se compose d'infiniment plus de morts que de vivants. Formule destinée à rabattre l'orgueil naïf des révolutionnaires qui croyaient pouvoir faire fi de cet immense passé. L'héritage ancestral sur lequel nous avons à bâtir est d'une taille incomparable au regard des modestes moyens dont nous disposons pour le faire aujourd'hui fructifier. La conscience historique est à ce premier stade la conscience de la modestie dictée par cette disproportion. À l'opposé de l'hubris révolutionnaire, elle dicte une ligne de conduite placée sous le signe de l'impératif de continuité envers ce passé dont nous sommes dépendants. C'est ce qui explique que l'émergence de la conscience historique proprement dite, dans le sillage de la Révolution française, se soit produite à l'enseigne du conservatisme, idéologiquement et politiquement. On va y revenir. Impératif de continuité veut dire prise en charge du passé dans l'action menée au présent en direction de l'avenir. Exigence de rester en proximité avec l'inspiration du passé, de telle sorte que l'apport du présent soit un plus et un mieux qui le laisse reconnaissable dans sa physionomie fondamentale. Ce qui assigne par principe un cadre limitatif à l'action historique. Sauf que la quantité de changement potentiel dans le présent ne va cesser de grandir, de par la dynamique d'auto-amplification dont nous avons identifié le principe. La proportion entre le poids du passé, la force de l'acquis, et la puissance d'invention mobilisable dans le présent va évoluer continuellement dans le sens d'un avantage toujours plus prononcé en faveur du présent. Là aussi, il ne me semblerait pas totalement absurde de se risquer à calculer une sorte de coefficient. Que représente la puissance d'invention du présent par rapport au stock de l'héritage, de l'acquis historique ? Cet avantage à la puissance du présent sur l'héritage du passé va avoir pour effet de modifier le rapport au passé vis-à-vis duquel la distance se creuse, tant du point de vue intellectuel, ce que son héritage représente pour nous, que du point de vue pratique, ce qu'il est effectivement possible d'y changer. Mais aussi change le rapport à l'avenir, du même coup, ce qu'il est possible d'en attendre, le degré de différence ou d'altérité par rapport au passé et par rapport au présent qu'il est légitime de viser comme but, au nom sous son nom, et c'est du même coup, les modalités de l'action collective qui changent en fonction du but qu'elle est en mesure de s'assigner. Comment l'atteindre ? C'est une des questions déterminantes qui se posent aux acteurs de l'action en direction de l'avenir. Nous avons là la variable déterminante du déploiement interne de l'orientation historique. En suivant ce fil conducteur, il est possible d'en périodiser les étapes. À la fois intellectuellement et pratiquement, de nouveau. D'abord, sous l'angle des rapports de force entre les différentes idéologies qui sont l'expression privilégiée de ce rapport entre la force du présent et le poids du passé, pratiquement ensuite, sous l'angle des formes que va revêtir l'organisation du présent en vue de la production du futur, notamment, mais pas exclusivement, dans le registre économique. Je le pointais à l'instant, l'émergence de la conscience historique au début du XIXe siècle, la découverte de l'histoire dans son concept pleinement formé, s'effectue sous un signe idéologiquement conservateur. Première étape qui est fonction de l'avantage immense du poids du passé sur la force du présent. La théorisation la plus profonde s'en trouve chez Hegel. L'impératif de continuité avec ce passé dont l'acquis nous domine fait que la tâche du présent ne peut consister que dans la rationalisation, tant théorique que pratique, de cet héritage du passé. C'est proprement cela la fin de l'histoire. L'action historique requise par l'actualité consiste à rendre raison de cet héritage sur le plan théorique, à en montrer la nécessité, et corrélativement, sur le plan pratique, à lui procurer sa forme achevée, sa forme rationnelle, grâce à la science de soi de l'histoire parvenue à son terme. C'est en quoi l'esprit conquiert sa liberté. Dans le langage qui est le nôtre, il s'agit de sauver les structures hétéronomes héritées du passé. Monarchie, hiérarchie, incorporation, société corporative, en leur infusant un esprit rationnel qui les justifie tout en les rendant compatibles avec l'esprit de l'autonomie, où l'on distingue au passage ce qui distingue le conservatisme comme idéologie moderne de la vision réactionnaire pour laquelle cette rationalisation n'a pas lieu d'être, l'ordre hétéronome étant à défendre et à retrouver tel quel. Étape suivante, l'étape du renversement libéral. L'étape où la puissance d'invention du présent a pris suffisamment de consistance pour prendre conscience d'elle-même en s'éloignant de l'acquis du passé et pour faire advenir la société de l'histoire proprement dite. l'étape où l'orientation historique exerce son impact structurel en faisant apparaître son incompatibilité avec l'ancienne structuration hétéronome et en imposant son organisation propre. Indépendance de la société civile par rapport au commandement politique, afin de libérer son dynamisme historique, justement, indépendance des acteurs individuels et gouvernement représentatif. Disons plus exactement, timide début de cette indépendance des acteurs et de la société. Timide début porté par les premiers effets de la révolution industrielle et du capitalisme d'un genre nouveau qui s'installe avec lui. L'action collective, l'action historique, n'est plus dans ce cadre une rationalisation conservatrice, une réappropriation raisonnée du passé sous le signe de sa perpétuation nécessaire. Elle se pose comme un développement original de l'acquis du passé. Développement original prenant conscience de ce passé et de son développement comme un développement de la liberté et se donnant les institutions, l'organisation collective apte à traduire concrètement cette liberté. Mais cela dans des limites dictées par la prégnance de l'un hétéronome. Des limites qu'il faut tout de suite souligner. Développement, mais sous le signe de l'intime continuité de cette nouveauté du présent avec l'ensemble du passé. Et ce qu'elle implique dans l'action comme dette envers l'héritage et devoir envers l'avenir. Devoir de prolongement de l'acquis du passé vers l'avenir. Indépendance de la société pour opérer ce développement, mais dans les limites de la subordination de cette société au pouvoir, indispensable pour assurer leur union étroite. Indépendance de l'acteur individuel, mais dans les limites de l'encadrement collectif nécessaire pour maintenir l'identification de l'individuel au collectif par la subordination de l'individu au groupe. Mais de nouveau, l'approfondissement de l'orientation historique, l'accroissement de la puissance du présent, l'augmentation de la capacité de changement collectif vont mettre à mal cette unité des temps et plus largement cette forme une de l'existence collective conservée envers et contre tout au milieu de la société de l'histoire. Ils vont provoquer l'entrée dans une nouvelle étape caractérisée par la crise du libéralisme classique et la montée idéologique du socialisme. Cet accroissement de la puissance du présent à sa manifestation la plus directe dans la deuxième révolution industrielle, qui prend son essor à partir des années 1880. La révolution énergétique de l'électricité et du pétrole, avec tout ce que cela entraîne de retombées. Révolution qui s'accompagne de l'émergence d'une nouvelle forme de capitalisme, pour laquelle la meilleure dénomination me paraît être celle de capitalisme systématisé par rapport au capitalisme improvisé ou spontané de la première révolution industrielle. Apparition de la grande entreprise, dissociée de la propriété individuelle et gérée par des managers spécialisés, sur fond de concentration capitaliste et de spécialisation de la fonction financière à un bout, et de l'organisation scientifique du travail à l'autre bout. Mais deuxième révolution industrielle à replacer dans le cadre plus large de l'avènement d'une société d'organisation, dont l'organisation capitaliste de la production et des échanges n'est qu'une des branches. Aussi bien se dressent en face de cette organisation capitaliste les organisations créées par le mouvement ouvrier qui s'organise lui aussi, syndicats et partis de classe et de masse. Mais c'est l'ensemble du domaine collectif qui est saisi par ce processus d'organisation et qui se trouve refondu en fonction de lui. Ce processus d'organisation est la résultante de la pénétration de la perspective de l'avenir au sein de l'expérience collective. C'est là qu'il prend sa source ultime. La prise en compte du futur s'exprime dans la mobilisation volontaire des acteurs individuels pour former des forces collectives définies en fonction d'un projet au futur, qui peut revêtir les aspects les plus divers. C'est ce qui fera parler de l'âge des masses, et des masses dont il faut bien saisir qu'elles sont des masses en mouvement, au travers de l'organisation des masses. L'avenir, les masses, la révolution, le socialisme, hein, tels seront, idéologiquement parlant, les mots-clés de cette nouvelle étape de la société de l'histoire qui couvrira les trois quarts du XXe siècle. Cette nouvelle étape sera particulièrement convulsive parce qu'elle sera placée sous le signe de l'unité perdue au présent à reconquérir dans l'avenir, moyennant mobilisation générale de la société, ce que désigne très précisément le terme de révolution. Unité perdue parce que cette force démultipliée du présent représente une force de rupture par rapport à la continuité organique des temps qui se maintenaient encore à l'étape libérale. Il y a dans le présent de quoi briser avec le passé, qui prend de ce fait un nouveau visage, caractérisé par la distance, voire l'altérité vis-à-vis du présent, la dimension que les sciences historiques ne cesseront de creuser à travers tout le XXe siècle. Mais cette distance nouvelle vaut sur l'autre bord pour le visage de l'avenir. Il est possible, sur la base de cette puissance du présent, de concevoir un avenir radicalement différent du présent. Il y a du sens, de l'intérieur même du processus historique, et non dans l'abstrait, de travailler au renversement du présent. Réflexion et action s'alimentent mutuellement. Ici, il faut le souligner une nouvelle fois. Moins de continuité vécue avec le passé, ce que ce phénomène sur lequel nous pouvons mettre un nom très précis, détraditionnalisation. Fin du 19e, début 20e siècle, c'est le moment fort où ce processus devient visible. Moins de continuité vécue avec le passé veut dire plus de liberté concrète à son égard, moins de dettes et d'obligations envers lui, plus de possibilités d'action, possibilité de se projeter dans un avenir qui soit carrément le contraire du présent. Il faut ajouter à cette unité perdue des temps, l'unité perdue du peuple, fracturée par la division des classes. Il faut y ajouter l'unité perdue du pouvoir et de la société, brisée par le dissensus collectif qui fait apparaître la représentation au rebours des espérances libérales comme un mensonge dissimulant la captation du pouvoir par une minorité. Unité perdue, mais unité à retrouver, à réaliser pour de bon même. Tout se joue là, dans ce mode de survivance paradoxal de la forme de l'un hétéronome. Elle s'est effacée de la scène, elle n'a plus la capacité d'informer et de définir expressément l'existence collective, mais elle n'a nullement disparu pour autant. Elle demeure de manière latente, la forme obligatoire, la seule forme imaginable de concevoir l'existence collective. De telle sorte que sa remise en question au présent ne peut être vécue que comme une urgente obligation de la ressaisir au futur. Le présent déchiré ne pouvant constituer qu'une anomalie temporaire, un moment de transition vers sa reconquête sous une forme supérieure, la forme de l'accomplissement final du processus historique. C'est ce qui fera du XXe siècle le siècle par excellence de l'avenir. Le siècle par excellence du socialisme. Le siècle par excellence des philosophies de l'histoire et de l'idée de révolution. Jamais l'impératif futuriste n'aura autant travaillé une société, sous mille formes. L'impératif de dépassement du présent au profit de l'accomplissement de sa promesse d'un renversement de ses termes. C'est cet aboutissement que désignera la notion de socialisme sous de multiples versions. Derrière ces multiples versions, il faut lire la même aspiration fondamentale de la ressaisie de l'unité collective dans une version purement épanouie. Dont la propriété collective des moyens de production apparaît pour la plus sûre garantie, puisqu'elle met fin à la division entre propriétaires et non-propriétaires et élimine par la même occasion le besoin des uns de dominer et d'exploiter les autres. C'est cette aspiration que rationalisent les philosophies de l'histoire. Le marxisme principalement, parce qu'il est le plus approprié aux questions d'une société industrielle à son propre sujet, mais pas exclusivement. Sur le fond, comme j'ai eu déjà l'occasion de le souligner, le XXe siècle n'aura rien apporté intellectuellement comme nouveauté aux philosophies de l'histoire créées au XIXe siècle. Il vivra sur leur fond, sur leur acquis. Mais il aura été le siècle où ces philosophies de l'histoire ont trouvé leurs adeptes, alors qu'il restait des curiosités relativement étroites dans le moment où elles ont été élaborées. Les philosophies de l'histoire s'inventent au XIXe siècle, mais c'est au XXe siècle qu'elles deviendront, pourrait-on dire, des croyances de masse, plus ou moins dégradées dans des versions idéologiques simplificatrices. Il en va de même de l'idée de révolution. Le XIXe siècle, pourrait-on dire, aura été le siècle des révolutions effectives. Le XXe siècle aura été le siècle de l'épanouissement et du règne de l'idée de révolution, érigée en horizon suprême de la société de l'histoire. Idée à replacer dans le déploiement de l'orientation historique sur fond d'unité hétéronome dont elle constitue un moment significatif. La révolution, c'est ce moment hypothétique de la mobilisation totale de la puissance du présent, permettant d'opérer une discontinuité radicale vis-à-vis de l'ensemble du passé, discontinuité grâce à laquelle se reconquiert la continuité essentielle du processus historique dans son aboutissement terminal. La discontinuité qui permet d'atteindre la continuité ultime du processus historique. En laquelle passé, présent et avenir se rejoignent et trouvent leur identité finale. On comprend, par rapport à cette toile de fond esquissée à grands traits, la profondeur de la cassure que va représenter la crise de l'avenir qui se manifeste dans la seconde moitié des années 1970. Nous avons eu encore récemment l'occasion d'en parler à propos de la conjoncture fondamentaliste. Une cassure qui a emporté en quelques années tout à la fois le crédit de l'idée de révolution qui s'est vidée de son attraction magique, le crédit des philosophies de l'histoire des faits comme grand récit sans substance. Au-delà des philosophies de l'histoire, l'idée même d'histoire, révoquée en doute, mais aussi enfin le crédit du projet socialiste dans sa version, dans ses versions élaborées au XIXe et XXe siècle. Cette crise de l'avenir est le symptôme de l'entrée dans une nouvelle étape du déploiement de l'orientation historique, la nôtre d'étape. Une étape caractérisée par une nouvelle amplification de la puissance du présent, d'un côté, et par la liquidation complète de l'unité des temps hétéronomes, de l'autre côté. La puissance du présent, la capacité de changement inscrite dans le présent, prennent carrément le pouvoir. Cette fois. Et cela transforme de fond en comble la nature et les perspectives de l'expérience historique. En effet, tout ce qui avait été élaboré depuis le début du XIXe siècle à cette enseigne se voit invalidé. L'orientation historique, cette fois, est seule à déterminer la structuration des temps sociaux, la structuration du déploiement de l'existence collective dans le temps. Nous ne sommes plus dominés par le passé, nous le dominons. Pour inverser la formule d'Auguste Comte, on pourrait dire il n'y a plus de vivants que de morts. Et ce n'est pas entièrement faux démographiquement, mais c'est à coup sûr vrai intellectuellement. Vous le savez, il n'y a plus de chercheurs vivants aujourd'hui qu'il n'y en a eu dans la totalité de l'histoire jusqu'à une date récente. Nous n'avons plus du même coup ce rapport de dette envers le passé qui exigeait très consciemment d'en reconduire l'inspiration dans le présent et en vue du futur, nous n'avons plus cette obligation envers l'avenir qui nous obligeait à lier le présent au futur. Il n'y a plus de continuité vécue et conçue du processus historique. C'est ce qui me semble à la base des transformations spectaculaires du visage des temps sociaux que nous sommes en train de vivre, hein, sous le triple signe de la patrimonialisation du passé, de la médiatisation du présent et de l'économicisation de l'avenir. C'est ce que nous explorerons de façon plus circonstanciée dans notre prochaine séance. Je vous en prie.
Peut-être que la question se pose de la justice intergénérationnelle, notamment avec le changement climatique. Est-ce que ça ne met pas en doute que vous mettez sur la disparition de l'obligation envers le passé ?
Entendons-nous bien. Entendons-nous bien. Vous avez, votre question est on ne peut plus pertinente. Mais elle, il faut bien voir la modalité selon laquelle elle s'énonce. C'est une question polémique par rapport à un état de fait. L'état de fait, c'est l'indifférence à cette justice intergénérationnelle. Peu importe ce qui sera demain de l'état de la planète, parce que, vu du présent, ce n'est pas une question significative. Moi, ce qui m'intéresse, ce que j'essaye de décrire, c'est le mouvement qui conduit à cette indifférence. Mais je ne dis pas que c'est le dernier mot de l'histoire et la nécessité dans laquelle nous sommes enfermés. Ce pourquoi, c'est bien ce que je veux mettre en évidence, c'est à quel point ce déploiement de l'expérience historique est problématique et soulève toute une série de questions, dont cette question de la justice intergénérationnelle n'est qu'une d'entre elles. Il y en a d'autres. Vous voyez ? Ça n'est pas, les acteurs de l'histoire sont libres d'examiner le monde qu'ils créent, y compris sous l'angle de sa contestation. Nous ne sommes pas enfermés dans ce dispositif qui règne. Mais il faut comprendre pourquoi il règne. Voilà, j'en suis à ce stade. Mais il y a une suite. Et la suite sera, c'est pas difficile de l'anticiper, vous avez raison, sous le signe de questions comme celle-là. Tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Nous sommes devant, vous verrez, cette question-là est essentielle, mais il y en a d'autres. Justement, le but est d'aboutir à qu'est-ce qui fait problème, à l'identification de ce qui fait problème dans le présent. Pas de dire, ben voilà, c'est comme ça, tout va bien. C'est pas le sens de mon propos.
S'il vous plaît, l'orientation historique n'a-t-elle pas montré que la politique était autrefois le paravent de la religion et aujourd'hui le paravent de l'économie ? Dans ce cas, plutôt que la fin de l'histoire, est-ce que ce n'est pas la fin de la politique ? Du fait du rapprochement de la subordination de la société civile à la société libérale, auquel cas, est-ce qu'on n'assisterait pas à un avènement presque nécessaire d'une économie politique ?
Je ne me reconnais pas tout à fait, je dois vous l'avouer, dans les termes dans lesquels vous posez la question, parce que... Ce n'est pas tout à fait de cette manière qu'il faut la définir. Là aussi, ce que vous faites ressortir, c'est un constat par rapport auquel toutes sortes d'interprétations sont possibles. Il y a très longtemps, d'abord, que la politique n'est plus le paravent de la religion. Et quand on dit qu'elle est le paravent de l'économie, il faut faire très attention. Je dirais tout simplement, l'économie a bien besoin de la politique, si elle ne l'avait pas. Je crois qu'il y aurait de graves problèmes pour elle. Donc, le mot paravent ne permet pas d'éclaircir bien la relation compliquée qui existe entre la politique et l'économie dans le monde où nous vivons. De ce point de vue-là, c'est très important de saisir le déplacement qui s'opère. Pourquoi, quelle est la raison fondamentale pour laquelle l'économie a pris cette place? Fondamentalement, pour les besoins de la redistribution sociale. Il y a une sorte de jeu. Bon, on avait un jeu à deux pôles du côté des gauches, le pôle réformiste social-démocrate, le pôle révolutionnaire. Le pôle révolutionnaire disait il faut supprimer la propriété privée des moyens de production. Donc celui-là, pour des raisons sur lesquelles on peut discuter, et on continuera un bon moment, je pense, n'est plus en état de marche. Il n'en reste qu'un. Donc, si on veut prendre des mesures de redistribution qui vont dans le sens de la justice sociale, d'une certaine égalisation des conditions, ou du moins de la limitation des effets les plus marqués de la pauvreté ou de l'absence de moyens chez les gens, il faut que l'économie marche. Les plus grands champions du rendement capitaliste sont les sociaux-démocrates dans le monde où nous sommes, qui ont besoin d'une économie performante pour en tirer les moyens d'une politique généreuse socialement. C'est pas un paravent, ça. C'est une logique très forte de l'organisation collective. Ce n'est pas l'économie qui, par ses moyens indépendants, il y a des puissances économiques qui font, mais il y a une alliance objective qu'il faut bien comprendre entre les grands intérêts économiques et les politiques conduites dans une idée de justice sociale dans nos sociétés pour l'optimisation des résultats économiques. Alors après, on s'engueule sur la manière de le taux d'imposition des sociétés. Les différentes réglementations, encadrements, etc. Mais l'objectif est le même. L'objectif est le même, et c'est cette alliance-là qui met l'économie au cœur de la... On attend de l'économie les moyens de la politique. Par ailleurs, l'économie... La politique apporte des moyens considérables à l'économie. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel on reviendra. Donc, quand on parle d'un sujet comme celui-là, il faut bien identifier la logique qui rapporte ces termes. C'est parce que nos sociétés demandent quelque chose de fondamental à l'économie que l'économie se trouve mise au poste de commandement, dès lors qu'en plus, il n'y a plus cette solution magique de la propriété collective des moyens de production, dont le seul résultat historique perceptible a été de produire un appauvrissement collectif prononcé. Bon, ce n'est pas de ce côté-là qu'on va chercher. Voilà. Donc, ça montre que tout simplement, ce n'est pas par des incantations qu'on peut sortir d'une situation comme celle-là. Le projet de justice sociale est otage de l'économie. Voilà, il faut partir de là.
C'est donc la part puissante de l'autonomie formelle.
Oui, bien sûr. Mais on va repréciser tout ça.
On parle d'économie, mais en fait, les acteurs de l'économie sont essentiellement les grandes entreprises qui prennent un pouvoir politique considérable. Vous expliquez vous-même, nos dirigeants se mettent à genoux devant le système néolibéral et entérinent les dérives qu'ils suscitent. Si les dirigeants se mettent à genoux devant les chefs d'entreprise, alors n'y a-t-il pas une nouvelle façon d'être, comment dirais-je, une nouvelle hétéronomie qui serait que l'économie domine?
Alors,
vous avez parlé d'avoir royal aussi.
Est-ce que voilà, les mots sont très importants ici. Est-ce qu'il s'agit d'une hétéronomie au sens, dans la rigueur des termes?
Non.
Oui, c'est ça. Mais on est à un rapport de force entre des éléments de l'autonomie. Il ne faut pas appeler ça hétéronomie. Ça n'enlève rien à la réalité du phénomène que vous décrivez, qui est bien patent. Mais moi, le point qui m'intéresse, ici, ce que j'essayais de dire, c'est pourquoi les dirigeants politiques sont-ils à genoux devant les puissances économiques? Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont achetés par eux. Ça peut exister, hein. Je n'ai pas naïf. Mais c'est pas ça la cause déterminante. Parce que, d'une part, il n'y a pas d'idée politique sur les moyens de parvenir à un optimum de richesse collective en dehors de la productivité des entreprises. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de discours politique, sinon des utopies plus ou moins naïves en la matière. Et parce que on est dans un rapport de chantage, les dirigeants économiques disent « Si vous voulez une économie qui marche, laissez-nous faire. » Ah bon ? Alors, on vous laisse faire. Et puis après, on essaye de négocier avec eux pour avoir une ristourne sur les bénéfices que les concessions qu'on leur a faites sont supposées leur vouloir. Ce qu'on en voit autant partout dans nos sociétés. Avec aujourd'hui une situation tout à fait nouvelle, qui n'est pas simplement la l'obligation d'en passer par eux. Donc, on s'aplatit parce qu'on a besoin d'eux. C'est le fait que je pense que la stratégie des très grandes entreprises, il y a toute une hiérarchie d'acteurs dans ce domaine qui est un point essentiel et mal commode à clarifier. La stratégie de ces plus grands acteurs, les plus puissants, n'est plus tellement une stratégie d'influence sur les dirigeants politiques. C'est une stratégie d'extraction de l'influence de la politique. C'est ça leur but. C'est d'une certaine manière l'enjeu le plus aigu de la phase actuelle de mondialisation. C'est sortir complètement des espaces nationaux et s'installer juridiquement dans un no man's land qui les rend insaisissables et qui les met à l'abri de l'inscription dans des cadres politiques.
Oui, c'est bien ça l'enjeu.
Eh bien oui, mais vous voyez, ce n'est pas une puissance. Ils n'ont plus une stratégie de puissance. Ils ont une stratégie de désappartenance. Et c'est complètement différent. Comment échapper complètement au cadre politique? Alors, ce projet, Dieu merci, me semble en fait in fine impraticable. Mais c'est bien la chose à laquelle on a affaire. Ça se manifeste sur le plan fiscal, mais ça concerne en fait l'ensemble des activités vis-à-vis des normes, bien entendu, vis-à-vis des conditions de fonctionnement des entreprises, etc. C'est comment remettre, si j'ose dire, comment remettre la puissance économique dans le jeu des puissances sociales, où il y a une négociation possible. Là, il n'y en a plus.
Il y a aussi un autre problème. Vous avez parlé de l'accumulation du capital financier, vous avez parlé de la construction du capital humain, et le troisième volet, qui est le capital naturel, il a été complètement occulté dans cette première étape de l'orientation historique. Et de ce fait, effectivement, il rejaillit maintenant dans cette construction de l'avenir.
Ah oui, ça, voilà, c'est la butée, bien sûr. Alors, je n'ai pas de doctrine arrêtée sur ce point, mais je suis un peu gêné par cet emploi du terme de capital généralisé. Il est très significatif du présent parce que je pense qu'il exprime quelque chose précisément de l'univers capitaliste tel qu'il est aujourd'hui. Mais par là même, faut-il parler le langage de ce capitalisme qui voit du capital partout?
En permanence, oui. Pourquoi ne pas l'employer aussi pour le capital naturel?
On peut, c'est pas insensé, je le reconnais. Le capital humain, de la même façon, ce qui me gêne, par exemple, dans l'idée de capital humain, c'est le côté monodirectionnel de l'idée des capacités personnelles. Quand on informe, éduque, forme les gens, on n'a pas pour but simplement de les rendre acteurs économiques plus performants. Ça va plus loin. Et est-ce que ça s'appelle un capital? C'est-à-dire les moyens qu'un individu trouve en lui-même pour s'orienter dans le monde et faire quelque chose à part.
Capital culturel.
Est-ce que c'est un capital? Voilà, ça me paraît un sujet de discussion légitime à tout le moins, sans que par commodité il est facile d'employer cette terminologie, je suis pas sûr qu'elle soit absolument convaincante.
Je crois qu'il y a en ce moment une dialectique dans le comportement des grandes entreprises qui, comme vous le dites, cherchent à s'extraire des États nationaux, mais qui en même temps, dans le cadre de la mondialisation, ont besoin d'une régulation et de normes. De ce point de vue-là, le traité en discussion entre l'Europe et les États-Unis est tout à fait intéressant. Parce que d'un côté, on demande aux États d'intervenir pour des normes, en essayant de trouver un équilibre. Mais en même temps, si on aboutit à quelque chose, s'il y a des conflits, là, ils veulent sortir des justices nationales et créer des arbitrages, des mécanismes d'arbitrage autonomes, dépendant de grands cabinets anglo-saxons. Et s'il réussit, ça sera très important. Parce que ça sera un exemple d'extraction. Un élément de la souveraineté, c'est la justice. Bon. Et s'ils arrivent à ce que des conflits majeurs, au point de vue économique, échappent aux États nationaux, ça sera évidemment un pas très important.
Ah oui. Ça, là, je pense que c'est une épreuve cardinale qui permettra de parler pour de bon de la fin de l'âge de la souveraineté. Là, pour de bon, parce qu'on en a beaucoup parlé à cause de l'organisation de la société internationale, etc. Ça me semble assez douteux. Il y a une limitation de la souveraineté, mais il y en a toujours eu. Ça n'a jamais été un principe absolu. Là, en revanche, on légitime, les États reconnaissent, par un traité entre des États, la légitimité d'acteurs à traiter d'égal à égal avec eux, puisque l'enjeu de ces tribunaux arbitraux, c'est l'arbitrage entre une instance économique et des États. Autrement dit, on reconnaît une manière de souveraineté à des acteurs privés. On n'est plus dans la logique de réciprocité entre des États qui reconnaissent chacun leur souveraineté, avec la nécessité d'arbitrer entre les revendications de ces souverainetés. On est carrément dans l'élévation d'acteurs privés au rang d'acteurs souverains, qui traitent d'égal à égal avec des États. Bon, là, si on franchit ce pas, avec une nuance très importante, qu'il faut tout de suite souligner, c'est qu'il y a une dissymétrie là-dedans. Les États-Unis demandent aux autres nations de cesser d'être souveraines, étant bien entendu que eux conservent ad integrum la souveraineté finale sur laquelle ils ne sont pas prêts à transiger. Ah, c'est un enjeu politique absolument phénoménal et j'espère que ces choix pourront être opérés en toute délibération démocratique, ce qui ne paraît pas absolument assuré au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils vont très loin.
Oui, ma question touche les philosophies d'histoire. Les philosophies hegeliennes et marxistes ont été, me semble-t-il, des solutions de remplacement à l'eschatologie chrétienne. Les hommes étant mortels, ayant toujours eu besoin de l'attente de temps meilleur. ces philosophies séculières de l'histoire ont été élaborées, donc comme vous l'avez dit, au XIXe siècle, ont été au XXe siècle malmenées par les faits historiques. Pour la philosophie hegélienne, les camps de la mort peuvent difficilement être considérés comme une période de perte qui serait retrouvée par une période de gain. Quant à l'expérience, quant à la philosophie marxiste, l'échec de l'expérience soviétique la déconsidère complètement. Ma question, à votre avis, n'y a-t-il plus rien à puiser dans ces philosophies d'histoire? Et est-ce que nous en avons terminé avec le ton des philosophies de l'histoire?
Tout dépend de ce qu'on met sous ce mot. Les philosophies de l'histoire correspondent à un modèle intellectuel extrêmement précis, dont j'ai essayé de pointer les principaux traits, en résumé. De ce modèle intellectuel très précis, à mon avis, nous sommes complètement sortis. Il ne suit pas de là qu'il n'y a plus lieu de réfléchir philosophiquement sur l'histoire. C'est autre chose. Ça, c'est le genre de passage à la limite qu'il faut soigneusement s'interdire. Je dirais même que c'est le contraire. Tant qu'on avait des philosophies de l'histoire, on avait l'impression une solution clé en main, somme toute assez facile, au problème. Le vrai mystère de l'histoire et de la nécessité de l'élucider et des possibilités qu'elle recèle commence. Donc les philosophies de l'histoire ont servi d'écran, je dirais, ont été une phase infantile, comme dirait Lénine, la maladie infantile de la réflexion sur l'histoire, les philosophies de l'histoire. Mais à l'état adulte, il faut philosopher sérieusement à propos de l'expérience historique. Alors, je voudrais quand même faire une ou deux notations à propos de ce que vous avez dit sur l'équivalent, sur le passage de l'eschatologie chrétienne aux philosophies de l'histoire. Bon, c'est pas entièrement faux. Il y a des éléments eschatologiques dans ces philosophies, mais juste une observation. Qui me semble déjà limiter sérieusement la portée du rapprochement. Les philosophies, l'eschatologie chrétienne, elle parle du salut de l'âme immortelle. C'est important. Les philosophies de l'histoire, elles promettent éventuellement, quand on dit que c'est des formules banales qu'on va toujours répéter, le salut terrestre. Mais le salut terrestre, ça veut dire quoi? Rien du tout. Et ne vous empêche pas moins d'être mort et enterré. Vous avez travaillé pour un avenir qu'on peut supposer meilleur, mais ce n'est pas un avenir meilleur, le salut. C'est la réalisation suprême ontologique de l'existence. Donc, vous voyez, je crois que c'est un raccourci pour le moins rapide qui rend pas bien compte de la spécificité de ce qui se joue au travers des philosophies de l'histoire.
Je me demandais si la période que nous traversons, la conjoncture, est vraiment une cassure par rapport au passé. C'est-à-dire, si pas cassure, vous voulez dire les yeux. Hein. Et je me disais qu'il y a quand même des manifestations d'une orientation collective vers l'avenir. C'est le rapport à la nature qui devient une question de plus en plus importante. Enfin, espérons-nous. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais j'ai surtout pas voulu dire que l'orientation historique a disparu. J'ai dit au contraire qu'elle s'est radicalisée. Donc, nous sommes dans une société intégralement organisée par la production du futur. Donc, de ce point de vue-là, on y est. On n'a pas dit tout ça, c'est fini. C'est le contraire. L'étrange étant que cette espèce de puissance démultipliée efface le repère même de l'idée d'histoire. Pourquoi? Et en effet, la nature arrive, revient là, en partie, par effacement de l'idée d'histoire. En gros, l'idée d'histoire a fonctionné au 19e, 20e siècle, sous le signe « nous sommes sortis de la nature ». Ce n'est pas le sujet. Nous sommes le règne de l'homme, c'est le règne de l'homme dans l'histoire. La nature, c'est plus le problème. Et nous revenons par la nature sur ce premier moment de la réflexion, du sentiment de l'histoire. Mais ça ne signifie pas que l'orientation historique a disparu, elle est plus que jamais prévalente. C'est pas conscient, mais en pratique, ça produit des effets considérables. C'est-à-dire, l'application du modèle d'efficacité économique à la totalité des activités, du berceau à la tombe. C'est pas tout à fait nul. Quand vous dites ça n'est pas conscient, vous dites quelque chose de très juste. Mais en fait, il ne faut pas dire conscient. Il faut dire ne se pensant pas comme histoire. C'est une orientation historique qui ne se pense pas dans l'histoire.
Oui,
non, c'est important. Ah, mais c'est pas moi qui vais dire le contraire, bien sûr. Bien sûr, c'est très important. Non, mais c'est pas inconscient. C'est une sorte de... L'économie prend très exactement l'économie dans un concept très élargi, c'est-à-dire le modèle d'action élaboré et défini en vue de l'efficacité économique devient le modèle général de l'activité collective, y compris de la gestion d'existence individuelle. Ce qui est intéressant comme développement, sans à aucun moment se penser dans intellectuellement comme dans l'élément d'une historicité, avec ce qu'impliquait cette notion qui ne signifie plus rien pour la plupart des acteurs spontanément. Mais ce n'est pas inconscient, c'est une sorte d'éclipse qui n'empêche pas, dans la pratique, l'orientation vers l'avenir d'avoir pris totalement le pouvoir dans nos sociétés. S'il y a l'injure suprême dans nos sociétés, c'est passéiste. Ça, alors là, c'est la disqualification sans appel.
Est-ce qu'on peut revenir une seconde sur ce débat au sein du traité transatlantique dans le prochain...
Oui, bien sûr, vas-y.
On peut comprendre en effet que l'idée de soumettre une loi dans des rues privées est contentieux. Et des investisseurs, mais est-ce qu'on n'est pas dans la logique de ce qui est en fait la réalité depuis maintenant très longtemps, depuis qu'on a levé les limitations à la circulation des capitaux? Quand les États, y compris la France, ont décidé que les capitaux circulaient vraiment, c'est-à-dire que l'allocation des ressources se faisait non plus du tout en fonction de ce que les États et la politique des États, mais en fonction et des préférences du marché, est-ce que le pas suivant consistant à confier cette allocation, les jugements, cette allocation, les contentieux qui naissent de cette allocation par le marché, de le confier également à des tribunaux qui sont régis également par les lois du marché ou qui répondent au marché, est-ce que ce n'est pas le pas suivant, le pas ultime qui est parfaitement... même si l'opinion publique peut plus prendre à l'étude et à comprendre, et si notamment en Allemagne récemment, il y a eu un débat avec une société, un investisseur en bourse sur une usine de production d'électricité qui a provoqué un débat puisqu'elle a essayé d'aller devant un tribunal arbitral et que les autorités allemandes, enfin les autorités du Land, ont réagi assez brutalement. Mais sur le fond, il me semble que nous sommes dans cette voie et qu'on a beaucoup de mal
Non, mais encore une fois, d'accord, logiquement, il y a une continuité, ça, vous avez tout à fait raison, mais il n'empêche que le pas suivant représente une rupture par rapport à ce qui précède, c'est pas incompatible, il y a une continuité logique de raisonnement de la part des acteurs économiques, mais il y a un changement de nature de la relation par rapport à ce que sont les principes fondamentaux de la politique moderne, c'est-à-dire le principe de souveraineté des États comme juge en dernier ressort de ce qui se passe sur leur territoire. Donc, évidemment, en position de supériorité juridique par rapport à n'importe quel acteur privé. Mais on est, en effet, on voit bien la manière de raisonner qui conduit les États à envisager cette solution. Et beaucoup, apparemment, on n'en sait rien, parce que ces négociations sont secrètes et les discussions à l'intérieur des instances européennes sont secrètes, mais apparemment, une majorité des États européens seraient favorables. Pourquoi ? Parce que, dans cette logique que j'évoquais tout à l'heure, le besoin d'attirer les investisseurs est à ce point déterminant qu'on leur accorde cette concession qui est de les traiter à égalité, d'une certaine manière, en considérant que l'intérêt supérieur collectif tel qu'un État est supposé le définir est à négociation à égalité avec les intérêts particuliers d'un investisseur privé. Bon, c'est une énorme question qui est posée et qui, à mon avis, soulève la question des limites de cette logique dans laquelle sont embarqués tous les États, logique de concurrence économique entre eux, qui aboutit à leur suicide. Sur ce plan, comme sur d'autres, parce qu'on a exactement le même problème à l'intérieur même de l'Union européenne sur le plan fiscal. Ce sont les prolongements pervers de la logique de l'attractivité des territoires.
Mais sur le plan, ce que je veux dire, c'est que sur le plan, est-ce que sur le plan conceptuel, il y a une différence entre cette situation potentielle et la situation d'aujourd'hui?
Ah oui, il y a une différence.
Accepte que Renault, depuis 30 ans, accepte que Renault fasse sa nouvelle usine en Thaïlande, ou la fasse à Billancourt.
Ah, non, mais... Non, mais là, alors, si sur le cas du dernier exemple que vous prenez, il ne me semble pas du tout probant et pas entré dans cette logique. D'abord, Renault est devenue une entreprise privée, où l'État a une participation, mais minoritaire. Donc, il n'est pas en position, les actionnaires peuvent se prononcer sur le bien fondé économique d'une décision de localisation, mais ne sont, à partir du moment où vous êtes actionnaire minoritaire, vous n'avez pas à parler au nom d'un intérêt général. Supposé. Donc, ce n'est pas un bon exemple. Mais je pense qu'il y a une rupture profonde. Que les États, dans la situation où nous sommes, prennent des mesures pour accroître les chances de voir s'installer chez eux des investisseurs étrangers qui développent là leurs entreprises et leurs activités, c'est une chose. On cherche à les attirer. Mais dans une politique qui est en elle-même très discutable parfois. Mais de là à passer au stade où on dit, puisque nous cherchons à les attirer, nous allons les traiter comme des partenaires juridiquement à égalité, il me semble y avoir un saut logique complet, dont je ne pense pas. Je vois bien l'emballement qui mène de l'un à l'autre du point de vue intellectuel, mais je pense que les conséquences de la chose ne sont pas mesurées par les responsables qui promeuvent ce genre de mesures.
C'était juste pour formuler une suite à la question de madame sur l'histoire. J'étais en train de me dire, à ce moment-là, que l'histoire, c'était comme si l'histoire était descendue au niveau de chacun, et comme si chacun, traversé par cette dynamique nécessaire, à travers le système que nous avons construit, se levait de répondre à cette injonction et assimiler cette histoire et la vivait pour lui et par rapport à la société au quotidien.
Mmh.
Il était traversé par cette...
un devoir d'histoire.
Oui,
oui, absolument.
Et c'est pour cela donc, qu'on utilise finalement le mot d'acteur.
Le mot d'acteur est en effet privilégié pour des raisons forte dans cette conjoncture, parce qu'il y a une mobilisation. C'est le mot-clé dans le dispositif parvenu à son stade de déploiement complet.
Je peux revenir une minute sur
mais je vous en prie.
Que vous m'avez fait tout à l'heure. C'est bien évident que le messianisme séculier et le messianisme religieux sont de nature totalement différentes.
Oui, mais est-ce que le même mot de messianisme s'applique vraiment?
Oui,
voilà.
Oui, parce qu'il semble que la substitution, elle a été d'ordre symbolique. On ne peut guère imaginer que le marxisme ait exercé une telle puissance de séduction si nous étions restés, pour employer votre mot, à la période de l'hétéronomie.
Non, ça va de soi. Mais il n'aurait pas été formulable d'abord, tout simplement. Indépendamment de l'attraction qu'il a exercée, je ne vois pas comment un auteur eût pu penser des choses de ce genre.
Bien sûr.
Oui, bien sûr.